Bonjour à tous. Donc aujourd'hui en histoire, j'ai décidé de m'enregistrer pour vous expliquer un petit peu les réponses aux questionnaires que vous avez remplis sur la Révolution française. Ça me paraît important que je puisse vous expliquer des choses et puis c'est un peu plus sympa, je pense. Donc, comme je vous l'ai écrit auparavant, il est important que vous ayez vu au moins les 16 premières minutes de la vidéo. C'est parti, donc j'espère que vous avez vos feuilles, que vous avez essayé de répondre, même si vous n'avez pas pu répondre à tout. L'idée, c'est que je vous donne des réponses. Vous avez également à côté de vous ou sur l'ordinateur les réponses écrites. Et puis moi, je vais aussi vous faire quelques commentaires qui me paraissent assez plaisants pour vous faire comprendre. Donc c'est parti. Le début de l'histoire, c'est le printemps 1789, date importante qu'il faut retenir. Je vous rappelle que Louis XIV est mort en 1715. C'était une monarchie absolue. Il décidait de gouverner seul, il écoutait très peu son peuple et surtout, il avait dépensé beaucoup d'argent. Et ça va avoir des conséquences beaucoup plus tard, notamment sous le règne de Louis XVI. Et donc, pour la question A, la 1, pardon, complète le texte. Donc, vous avez vu la rencontre entre Fred et le groupe de paysans. Donc, Fred rencontre ce groupe de paysans qui est très en colère. Et la paysanne lui explique que bah, le peuple a faim depuis 2 ans. C'est vraiment une famine. Et cette famine, elle est due à plusieurs causes. Surtout ces mauvaises récoltes dues aux conditions météorologiques, que ce soit les inondations, la sécheresse et la grêle qui s'est cumulée sur toute l'année. Et donc, bah, les paysans n'ont pas pu récolter. Mais en plus de cela, malgré leurs mauvaises récoltes, bah, ils doivent aussi, je vous rappelle, payer des impôts. Et ça a aussi des conséquences sur l'augmentation du prix du pain. Déjà qu'ils sont pauvres, on leur demande de payer plus cher le pain, donc ils en ont moins. 2. Explique cette expression. Le peuple veut divorcer d'avec les privilèges. Bah, tout simplement, ça signifie que le peuple en a marre, il en a assez des privilèges de la noblesse et du clergé, et qu'il veut complètement se séparer de ce système-là, il souhaite vraiment beaucoup plus d'égalité. L'échange final entre Fred et la paysanne. Il lui a dit, si vous avez bien entendu, Fred lui dit, si je comprends bien, vous voulez à la tête du roi. Et puis bah, la paysanne lui répond, bah, nous le roi, on n'a rien contre lui, on l'aime bien notre roi, mais il faut que ça change. Donc c'est vrai qu'au début de la Révolution, et ça c'était important de le noter, au début de la Révolution, le peuple ne souhaite pas la fin de la monarchie. Il souhaite toujours avoir un roi, mais il souhaite surtout que ce roi gère et gouverne autrement. Et vous l'avez entendu dans la vidéo, il souhaite seulement qu'on arrête de lui demander ce qu'il n'a pas, le peuple. 4. Quelle est la plus grande inégalité entre les nobles et le peuple ? Ben, on l'a déjà dit, l'inégalité, ce sont les impôts. Et que certains sont privilégiés face à ces impôts, puisque les nobles et le clergé n'en paient pas. Alors que le royaume fait d'énormes dépenses, et le peuple paie des impôts que les nobles ne paient pas, comme je vous le disais. Et sous Louis XVI, et ben la France va aider aux États-Unis, qui ne sont pas encore créés, et Lafayette va aider le peuple qui est là-bas à être indépendant face aux Anglais. Et ça, ça a coûté de l'argent, donc il faut trouver de l'argent, et vous allez en entendre parler, un ministre des Finances très important sous Louis XVI va essayer de trouver des solutions, et une des solutions, c'est de faire payer les nobles. Donc ce ministre, Necker, propose au roi de taxer la noblesse, de lui faire payer des impôts, comme je vous le disais. C'est la réponse à la question numéro 5. Au numéro 6... Pour contrer l'opposition des nobles et du clergé à la réforme des impôts, Louis XVI décide la réunion des États généraux. Qu'est-ce que les États généraux ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Louis XVI, c'était un roi qui a essayé d'écouter son peuple au départ et qui avait, je pense, compris qu'il y avait cette injustice entre les ordres que sont le clergé et la noblesse et le tiers-état par rapport à ces impôts. Donc, il décide de réunir les trois ordres en États généraux. Pour entendre et discuter des problèmes du pays. Pour cela, il demande quelque chose de très important, vous avez bien noté, il demande au peuple ce qu'il souhaite, et pour cela il fait écrire des cahiers de doléances dans chaque village, dans chaque paroisse, puisque c'était surtout organisé en paroisse, et pourquoi c'était important les paroisses ? Parce que le seul lettré pratiquement de chaque village, c'était le prêtre, et c'est lui qui inscrivait les demandes des habitants, des sujets du roi, qu'on appelait des doléances. Et donc, il y a eu des cahiers de doléances qui ont été remplis par le peuple pour qu'il puisse s'exprimer. Donc c'est ce que je vous ai écrit en rouge quand je vous dis, il demande à ce que dans chaque village, on recense le mécontentement et les besoins de chacun des sujets. Il demande à ce qu'on écrive des cahiers de doléances. Voilà. Donc notez bien ce mot, états généraux, il demande l'assemblée des états généraux, et il fait écrire à chacun, avec ses moyens, parce que vous avez bien entendu dans la vidéo que les paysans n'étaient pas lettrés, ils ne savaient ni lire ni écrire, mais ils ont quand même la possibilité de s'exprimer et de venir le dire à l'oral pour qu'on écrive dans les cahiers de doléances. Voilà. Donc, vont se réunir les états généraux. On va se poser un problème, c'est que quand on réunit les gens, on va prendre des décisions, mais il va falloir voter. Et puis là, ce vote, comment fonctionne-t-il au départ? Mais pour voter les décisions lors des États généraux, il est décidé de donner une voix à chaque ordre. Une pour le tiers-État, une pour la noblesse et une pour le clergé. Ce qui va poser problème, puisque la noblesse et le clergé étant ensemble, bah forcément, ça va faire deux voix contre une, le tiers-État. Donc le tiers-État, si ce système est conservé, le tiers-État ben ne pourra jamais gagner. Et donc, que vont proposer les représentants du tiers-État, qu'on appelle les députés, dès l'ouverture des États généraux? Ben tout simplement, ils vont demander à ce qu'on change la manière de voter, non plus une voix pour chacun des ordres, mais une voix pour chacun des députés. Vous avez pu voir dans la vidéo le nombre de personnes présentes aux États généraux, que ce soit du tiers-État, de la noblesse et du clergé. Et là, le vote, si c'est une voix par personne, ça va changer la donne, sachant que dans le clergé et dans la noblesse, certains étaient aussi contre ces injustices, parce que certains étaient assez proches, pardon, du peuple, notamment les députés qui venaient des régions. Donc les députés souhaitent changer de manière de voter et surtout, ce qu'ils décident, c'est puisqu'on ne veut pas leur donner ce moyen de vote, ils décident de se réunir à ce qu'on appelle une assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est un mot important puisque il faut savoir que ça existe toujours, cette Assemblée nationale, où se réunissent nos députés, encore actuellement. Donc voilà. Ils sont à l'Assemblée nationale, ils se réunissent en Assemblée nationale, et dès le début de l'été 1789, beaucoup de choses vont changer, et c'est des choses qui vont changer l'image de notre pays, la manière de fonctionner de notre pays, encore actuellement. En raison de cette révolution et ce début de révolution, on va voir que la manière de gouverner la France va être complètement différente. Alors, la rébellion des députés du tiers-État en juin 1789. Donc, vous aviez un texte à compléter, je vais le faire avec vous, et puis en vous donnant quelques anecdotes également. Donc, les députés du tiers-État ont refusé de se constituer en ordre séparé. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait d'un côté l'ordre, le tiers-État, le clergé et la noblesse. Et le 17 juin 1789, ils ont proclamé l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que tout le monde était réuni ensemble pour pouvoir discuter, échanger et même parfois assez violemment dans les mots. Et cette assemblée, comme je vous le disais tout à l'heure, elle existe toujours. C'est toujours la même chose. Ça existe avec des députés qui ne sont pas d'accord. On a parfois l'occasion de les voir le mercredi à la télévision. Mais en tout cas, c'est une assemblée qui représente le peuple, où chacun peut s'exprimer. Et d'ailleurs, nous, sur Saint-Hermine, on a un député qui représente les Herminois et la circonscription, et qui se déplace à Paris, et qui peut proposer parfois des lois, et voter aussi. Donc, en 1789, l'Assemblée nationale est constituée, mais le roi ne veut rien entendre. Pas question d'accepter le vote par député. Il fait fermer la salle des États généraux. Il dit stop, c'est fini, je ferme la salle. Et bien les députés, eux, qu'est-ce qu'ils décident? C'est-à-dire, on ne va pas partir de Versailles comme cela. Il ne veut pas qu'on se réunisse dans la salle des États généraux, et ben on va se réunir dans une autre salle. Et cette salle qu'il trouve, c'est une salle assez étonnante, c'est une salle de jeu, ce qu'on appelle la salle du jeu de paume. Et ils se mettent dedans, et puis jusqu'à nouvel ordre, on ne bougera pas. Le roi leur donne pourtant une nouvelle fois l'ordre de se séparer, mais les députés restent, car ils ont juré qu'ils ne se sépareraient pas avant d'avoir donné une nouvelle constitution à la France, c'est-à-dire, autrement dit, une nouvelle manière de gouverner. On ne va plus gouverner de la même manière, et tant que ça ne soit pas décidé avec le roi, ils ne bougeront pas. Et c'est ce qu'on a appelé ce serment du jeu de paume. Pourquoi le serment? C'est-à-dire que chacun a prêté serment. Vous voyez ce monsieur qui est sur une table et qui lève la main, comme quand on prête serment et quand on dit je le jure, non pas Madame Bellepoire, mais Monsieur le juge, on se prête serment pour dire on ne bougera pas d'ici tant qu'on n'ait pas une nouvelle manière de gouverner, ce qu'on appelle une nouvelle constitution. Finalement, comme le dit le monsieur qui vous l'explique dans la petite vidéo, Louis XVI va céder et il s'exclame, ils veulent rester, foutre qu'ils restent. Et ceci, c'est un moment très important où la nation va être rassemblée. Ce sont des représentants, pardon, de tout le peuple qui sont là pour donner les revendications du peuple. Ces fameuses revendications qui ont été écrites dans les cahiers de doléances. Donc, je vous propose, par rapport au jeu de paume, parce que je pense que c'est une anecdote assez sympathique pour vous, je vous mettrai une petite vidéo sur le site pour vous expliquer ce que c'était le jeu de paume en réalité, qui était un jeu que Louis XIV, lui, a presque abandonné, il a préféré le billard, vous en entendrez parler, mais pour comprendre que dans Versailles, il y avait une salle pour jouer, et cette salle, c'est dans cette salle qu'ont été réunis les députés du tiers-état et quelques autres du clergé et de la noblesse qui étaient prêts à continuer à discuter d'une nouvelle manière de gouverner. Voilà pour le serment du jeu de paume. J'essaie de tourner ma page. Voilà. Après avoir cédé, le roi change d'avis. Que fait-il pour contrer la rébellion des députés du tiers-état? Alors, même si il a dit ce mot foutre qu'il reste pour décider d'une nouvelle constitution, quelques jours après, quand même, il faut savoir que Louis XVI va renvoyer son ministre Necker, qui lui était favorable à la réforme des impôts, qu'il était prêt à faire payer les nobles. Et ça, non pas que Louis XVI n'est pas forcément d'accord, mais c'est surtout les nobles qui ont dit à Louis XVI, mais qu'est-ce que ce bazar? Et donc, il renvoie Necker, et puis en plus, il concentre 30 000 hommes, 30 000 soldats autour de Paris. Ce qui va se savoir, et ce qui va faire à la fois peur au peuple, mais surtout ce qui va le mettre en colère. Ben là, à ce moment-là, dans Paris, la peur et la tension montent. Imaginez des soldats, des canons tout autour de Paris et prêts à tirer sur la foule. Que va faire le peuple parisien? Ben comme on vient de le dire, il craint un massacre. Et donc en début juillet, ça va pas très bien à Paris. Et un député du tiers-état avertit le peuple de Paris de cette menace. Et ce député, c'est Camille Desmoulins, qui est un avocat. Et il dit ce qui va se passer, il le compare à la Saint-Barthélemy. Vous savez, cette fameuse Saint-Barthélemy qui s'était passée dans la nuit du 23 au 24 août 1572, où les protestants avaient été assassinés par les catholiques. Et Camille Desmoulins a dit, il va se passer ça dans la nuit, dans les nuits qui vont venir. C'est un massacre, mais non pas un massacre de protestants, mais un massacre des patriotes. Et là, dans Paris, une révolution, le peuple va se dire, il faut qu'on puisse se défendre. Pour se défendre, il faut des armes, et il faut en trouver des armes, parce que le peuple n'a pas d'armes comme ça, à part des petits couteaux, ils n'ont rien d'autre. Donc ils vont décider d'aller où il y a des armes, c'est-à-dire des armes, pardon, aux Invalides, où se trouve l'hôpital royal construit par Louis XIV pour accueillir ses blessés. Et donc, aux Invalides, ils vont trouver 3 000 fusils et 12 canons. Mais se pose un problème, c'est que dans les fusils et dans les canons, il faut mettre des munitions. Et il n'y en a pas aux Invalides. Donc le 14 juillet 1789, le peuple décide d'aller chercher la poudre où elle est, c'est-à-dire dans une forteresse, une prison qui s'appelle la Bastille. Et le peuple donc se rend à la Bastille pour s'y procurer cette poudre. Et là, les soldats tirent sur le peuple. Après 4 heures de combat, les assaillants, c'est-à-dire le peuple, va réussir à rentrer dans la Bastille et se procurer la poudre. Cette prise de la Bastille est le symbole de cette révolution et reste un symbole très important puisque, vous le savez, le 14 juillet, c'est la fête nationale, la fête du peuple, et on la fête encore, c'est-à-dire que le 14 juillet est un jour férié et ce qu'on appelle la fête nationale en souvenir de cet événement-là du 14 juillet 1789. Donc voilà. Retenez bien cette date, cette prise de la Bastille. Et est-ce que j'ai terminé? Pas tout à fait, puisque comment le roi réagit-il à la prise de la Bastille? Bah, il a un peu peur. Et donc, il décide d'éloigner les troupes pour faire régner un peu plus le calme dans Paris, pour que la tension retombe, pour que les gens aient moins peur. Il fait partir les soldats. Et puis surtout, geste important, il fait revenir Necker aux finances. D'une part parce qu'il était très compétent, mais aussi c'était un symbole de dire voilà, lui il était prêt à faire payer les nobles, je le fais revenir, ça va calmer un peu tout le monde. Et en plus, lui il rentre de Versailles, il vient à Paris et il fait un geste fort, il accepte de porter ce qu'on appelle la cocarde bleu, blanc, rouge. Ça vous dit peut-être quelque chose, cette fameuse cocarde bleu, blanc, rouge qui n'existait pas avant. Le symbole est fort puisque le bleu et le rouge sont les couleurs de Paris, et le blanc, la couleur du roi. Et les révolutionnaires, ceux qui ont pris la Bastille, vous voyez là encore, pour l'instant, n'ont rien contre le roi vraiment, ils ne veulent pas la fin de la monarchie, puisque dans le symbole de la cocarde, ils mettent cette couleur, du blanc qui représente le roi. Donc pour l'instant, il n'est pas question de mettre le roi à la porte, mais simplement de demander de changer de manière de gouverner. Et il est même acclamé en entrant dans Paris. Voilà pour la réponse au questionnaire. Vous avez eu pas mal de petites informations qu'on reprendra jeudi en écrivant des choses. Je vous ferai écrire des choses sur un petit résumé. Et avant de finir, j'ai quelques anecdotes, puisque vous avez entendu dans la vidéo des choses sur les découvertes et les inventions qui ont été faites à cette époque, et notamment quelque chose qui vous a peut-être surpris dans la vidéo. On vous parle d'un certain Antoine Parmentier, ce pharmacien militaire qui a fait découvrir à la France que la pomme de terre était bonne pour la santé, et c'était surtout quelque chose qui était facile à faire pousser et aussi très nourrissant. Ça vous dit certainement quelque chose, Antoine Parmentier. Son nom, ou plutôt le hachis parmentier vient de son nom, ce fameux plat qu'on fait avec des pommes de terre. Donc, comme je vous le disais, en France, à l'époque, on pensait que ce tubercule, qui est la pomme de terre sortie de terre, justement, des enfers, donnait la lèpre. Et donc, on n'en mange pas à l'époque. Parmentier va ainsi permettre au peuple de se nourrir. Et donc, je vous mettais comme petite histoire, vous éviterez de faire des anachronismes, c'est-à-dire que maintenant, vous ne direz pas que la pomme de terre, Louis XIV l'a connue et en a mangé, et encore moins Henri IV, puisque quand Parmentier a décidé de mettre cette pomme de terre au goût du jour, et ben en fait, Louis XIV était mort, et encore plus Henri IV. Voilà. Et puis vous avez pu voir aussi dans la petite vidéo que bah, la montre n'existait pas avant. Et il y a ce personnage dont j'ai oublié le nom là, comme ça, qui présente cette montre à gousset. Donc là, vous découvrez que sous Louis XVI, on a commencé à avoir des montres. Et puis enfin, ce monsieur Guillotin, qui lui n'a pas réellement inventé la guillotine, mais l'a soumise aux députés, pardon, pour que tous les condamnés soient tués de la même manière, quel que soit leur ordre. Et puis surtout, c'était aussi pour que ben, la manière de tuer soit un peu moins brutale que des haches, où parfois ben, c'était un peu glauque, où les condamnés n'étaient pas tués tout de suite, et cette guillotine a permis ben, aux condamnés de ne pas souffrir en réalité. Voilà, c'est étonnant de finir sur cette anecdote, mais on verra que la guillotine a été beaucoup utilisée après 1789, par certains révolutionnaires, notamment pendant une période qu'on a appelée la Terreur. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je sais que j'ai été un petit peu long, mais j'espère que ça vous a aidé à comprendre les réponses.